Bonjour Enrico Letta.
Bonjour, bonjour à vous tous.
La semaine va être marquée par une forte actualité européenne autour de deux sujets principaux, les migrants et le Brexit. Vous avez récemment publié une tribune dans les colonnes du Figaro sur la crise des migrants. Nous devons nous préparer, dites-vous, à une décennie dans laquelle, bon gré mal gré, le sujet migration sera central. Il va faire tomber les gouvernements et il va décider des élections, tout en influençant les performances économiques et les équilibres sociaux de nos pays. Faut-il comprendre, Enrico Letta, que cette crise des migrants, cette pression migratoire va provoquer des crises politiques?
Oui, c'est ça dans les différents pays, mais c'est ça au niveau européen aussi. Il manque, de mon point de vue, l'idée qu'il faut du leadership politique au niveau européen. On ne peut pas laisser le débat sur les migrants à l'alternative entre l'option entre Marine Le Pen et le pape François. On a cette idée que au milieu, parmi ces deux polarités, il n'y a rien, parce qu'on ne parle pas, on ne donne pas de solution, on parle surtout sur le côté domestique de chaque pays, de chaque agenda, de chaque pays. La vérité, c'est que ça va être le grand sujet des prochaines 10 années, parce que la technologie a complètement changé les choses. La mobilité aujourd'hui est beaucoup plus facile dans le monde. Et dans la Méditerranée aussi. C'est pour ça qu'il faut, avoir des solutions.
Si on fait des parallèles politiques, Marine Le Pen, le pape François, ils existent aujourd'hui, ils s'incarnent chacun en Europe dans des positions politiques, si on pense à certains pays de l'Est ou à l'Allemagne, par exemple?
Peut-être. Le problème, c'est que c'est une dialectique déséquilibrée, parce que le pape, naturellement, n'a pas de rôle politique. C'est pour ça que je dis qu'il y a une prairie entre Le Pen et le pape François. Et il faut remplir cette prairie avec des positions politiques. Moi, je plaide surtout pour que, au niveau européen, les différents pays qui ont ce sujet comme un sujet central cherchent à mettre en marche une politique avec les différents. Moi, dans cette tribune que vous avez citée, je propose 7 actions qui sont essentielles.
On va en décliner certaines. On observe tout de même que en Allemagne aujourd'hui, la chancelière Angela Merkel est très critiquée pour sa politique d'accueil massive des migrants. En revanche, dans les pays, notamment les pays de l'Est, où l'on refuse d'accueillir les migrants, les gouvernants, eux, sont finalement assez peu critiqués.
Oui, ça c'est facile, parce que ce sont naturellement des pays qui ont tenu une ligne très dure. Mais le point central est lié au fait qu'il faut comprendre que la solidarité est le mot-clé en Europe. On l'avait complètement abandonné, la solidarité, parce qu'on disait c'est un gros mot, c'est un mot qui... l'année passée, en 2015, après que l'Italie et la Grèce ont demandé solidarité pour la gestion dans la Méditerranée, la France a demandé solidarité après les actes terribles du 13 novembre, et puis ça a été l'Allemagne qui a demandé solidarité, qui demande aujourd'hui solidarité. Donc la solidarité est, de mon point de vue, le vrai mot avec lequel on se parle entre nous les Européens. Si on la laisse d'à côté, bon, c'est la fin de tout.
Alors vous déclinez donc dans cette tribune 7 mesures à prendre d'urgence. La première, c'est un accord, dites-vous, entre les pays membres pour constituer un corps de garde-frontières européens afin de sécuriser les frontières extérieures de l'Union. Donc, pour tout de même essayer d'empêcher l'arrivée de nouveaux migrants. C'est bien de ça qu'il s'agit.
Il faut mettre des règles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vécu, je pense à l'Allemagne, au mois de janvier, 100 000 réfugiés sont entrés en Allemagne. C'est un chiffre que France, Italie, Espagne ne connaissent depuis jamais. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc il faut maintenant mettre des règles. Sûrement, ces règles sont essentielles pour chercher de gérer ce que déjà est un grand problème à gérer, c'est-à-dire tous ceux qui sont entrés jusqu'à maintenant. Mais il faut le faire aussi pour éliminer les stéréotypes, c'est-à-dire pour avoir un garde-frontière européen. Je le dis très franchement, des Allemands, des Français à la frontière grecque, à la frontière italienne, des Italiens à la frontière de l'aéroport de Tegel, c'est la seule façon d'éviter qu'on commence à dire « bon, cette frontière, elle est mal gérée ». Alors, je remets ma propre frontière. Il faut savoir qu'avoir les frontières entre nous, les Européens, c'est un coût insupportable. On parle de 30 milliards d'euros perdu chaque année si on remet les frontières entre nous les Européens. Pensez seulement au fait que chaque camion doit s'arrêter une demi-heure, une heure à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche ou entre l'Italie et la France. Ça va C'est un désastre économique, il faut l'empêcher. La mobilité entre nous est une des grandes valeurs européennes.
Alors, vous évoquez également la nécessité d'un programme de quotas et de relocalisation, c'est-à-dire la répartition des demandeurs d'asile au sein des pays de l'Union européenne, qui avait été évoqué il y a quelques mois et qui avait fait polémique. Samedi dernier à Berlin, le Premier ministre français Manuel Valls disait, je le cite, « Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une majorité en Europe pour imposer un mécanisme permanent de relocalisation. Il faut un message très clair qui dise « Maintenant, nous n'accueillons plus de réfugiés ». Donc ce programme de relocalisation forcé en quelque sorte, il est plus ou moins mort-né, non ?
Mais je pense que Valls dit une chose qui est vraie. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui en Europe. Mais je trouve que là, la question clé est celle de savoir que ceux qui sont entrés maintenant, il faut gérer la chose avec une capacité de rendre le problème, je répète, gérable. Mmh. Mais en même temps, il faut imaginer que dans le futur, si on parle des prochaines 10 années, il faut gérer avec des quotas, de mon point de vue, parce que cette question des réfugiés de Syrie n'est pas la dernière. Ça va être, pendant les prochaines années, ça va continuer parce qu'on n'a rien fait pour stabiliser la Méditerranée. On a fait des guerres qui ont été des désastres. Je parle de la Libye, je parle de l'Irak. Maintenant, on est en train de payer des conséquences de guerres que nous, les Européens, on a faites. Des erreurs. Donc il faut un mécanisme permanent et je pense que dans le futur, il faut le négocier. Naturellement, quand je parle de relocalisation, je parle de quelque chose qu'il faut mettre ensemble avec d'autres choses. Il faut harmoniser les différentes façons dans lesquelles on accueille.
Alors, il y a aussi une chose nécessaire, c'est le dernier point que vous évoquez et qui est à vos yeux le plus important. C'est un vaste plan Marshall de l'Union européenne en direction de l'Afrique. On a quand même l'impression que ça fait des décennies que cette idée-là est évoquée et qu'elle ne voit pas le jour.
Oui, on l'a dit, on ne l'a jamais fait et maintenant on voit les conséquences. La conséquence, c'est une Méditerranée complètement instable. Le Mare Nostrum, on disait le latin, est devenu un Mare Mortum. On a fait mourir tant de gens dans la Méditerranée. C'est quelque chose qui est contre les valeurs européennes. Mais on sait très bien que, ou bien on met de la stabilité là, on cherche à aider à faire en sorte que ces pays aient de la croissance, aient du travail, ou bien ils nous voient, ils voient la façon dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il n'y a pas de solution nationale contre l'immigration. Il faut une politique globale, européenne, et chaque pays doit faire ce qu'il peut.
Un mot de ce qu'on appelle le Brexit. Il sera question jeudi et vendredi lors du sommet européen de ce que l'on accorde ou de ce que l'on n'accorde pas à la Grande-Bretagne pour qu'elle reste dans l'Union européenne. Est-ce que vous ne craignez pas que si l'on accorde sans cesse de nouveaux droits, de nouvelles dérogations à la Grande-Bretagne, finalement d'autres pays se disent « bah moi aussi je vais mettre des exigences sur la table pour me maintenir dans l'Union ».
Moi je suis entre ceux qui pensent que la Grande-Bretagne est essentielle dans l'Union européenne. Elle donne de la dimension, de la force à l'Europe, dans le monde, mais je pense aussi qu'on ne peut pas faire jurisprudence en donnant aux Britanniques plus de ce qu'il est nécessaire. On va avoir après eux les Polonais, les Hongrois qui vont demander le même. Et c'est la fin de l'Europe. L'Europe, c'est la solidarité entre nous. Donc je suis pour que cette négociation soit une négociation vraie, qu'on aboutisse au point essentiel. Mon idée est celle qu'il faut prendre de cette opportunité la possibilité de passer à une Europe à deux cercles. Un cercle large avec la Grande-Bretagne et un cercle plus étroit, les pays fondateurs qui cherchent à s'intégrer et à faire fonctionner, marcher l'euro mieux. Parce que si on continue comme ça, les gens n'en veulent plus d'Europe qui ne marche pas.
Merci Enrico Letta. Bonne journée.